L'Église, mère et éducatrice.
La vie morale est un culte spirituel. L'agir chrétien trouve sa nourriture dans la liturgie et la célébration des sacrements. Les commandements de l'Église concernent la vie morale et chrétienne, unie à la liturgie et se nourrissant d'elle.
Le magistère des pasteurs de l'Église en matière morale s'exerce ordinairement dans la catéchèse et la prédication sur la base du décalogue qui énonce les principes de la vie morale valables pour tout homme. Le pontife romain et les évêques, en docteurs authentiques, prêchent au peuple de Dieu la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs. Il leur appartient aussi de se prononcer sur les questions morales qui sont du ressort de la loi naturelle et de la raison. L'infaillibilité du magistère des pasteurs s'étend à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées.
Les 10 commandements.
Que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Par sa pratique et par sa prédication, Jésus a attesté la pérennité du décalogue.
Le don du décalogue est accordé à l'intérieur de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple. Les commandements de Dieu reçoivent leur signification véritable dans et par cette alliance. En fidélité à l'Écriture et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiale.
Le décalogue forme une unité organique où chaque parole ou commandement renvoie à tout l'ensemble. Transgresser un commandement, c'est enfreindre toute la loi.
Le décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Il nous est connu par la révélation divine et par la raison humaine.
Les 10 commandements énoncent, en leur contenu fondamental, des obligations graves. Cependant, l'obéissance à ces préceptes implique aussi des obligations dont la matière est, en elle-même, légère. Ce que Dieu commande, il le rend possible par sa grâce.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.
Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le premier commandement appelle l'homme à croire en Dieu, à espérer en lui et à l'aimer par-dessus tout. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Adorer Dieu, le prier, lui offrir le culte qui lui revient, accomplir les promesses et les vœux qu'on lui a faits, sont des actes de la vertu de religion qui relèvent de l'obéissance au premier commandement.
Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement.
L'homme doit pouvoir professer librement la religion, en privé et en public.
La superstition est une déviation du culte que nous rendons au vrai Dieu. Elle éclate dans l'idolâtrie ainsi que dans les différentes formes de divination et de magie.
L'action de tenter Dieu, en parole ou en acte, le sacrilège, la simonie, sont des péchés d'irréligion interdits par le premier commandement.
En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre le premier commandement. Le culte des images saintes est fondé sur le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Il n'est pas contraire au premier commandement. Le deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Ô Seigneur notre Dieu,
qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Le deuxième commandement prescrit de respecter le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est saint. Le second commandement interdit tout usage inconvenant du nom de Dieu. Le blasphème consiste à user du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints d'une façon injurieuse.
Le faux serment appelle Dieu à témoigner d'un mensonge. Le parjure est un manquement grave envers le Seigneur, toujours fidèle à ses promesses.
Ne jurez ni par le Créateur, ni par la créature, si ce n'est avec vérité, nécessité et révérence.
Dans le baptême, le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que lui soit donné un prénom chrétien. Le patronage d'un saint offre un modèle de charité et assure sa prière.
Le chrétien commence ses prières et ses actions par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Dieu appelle chacun par son nom.
Le troisième commandement. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Le septième jour sera jour de repos complet, consacré au Seigneur. Le sabbat, qui représentait l'achèvement de la première création, est remplacé par le dimanche, qui rappelle la création nouvelle, inaugurée à la résurrection du Christ. L'Église célèbre le jour de la résurrection du Christ, le huitième jour, qui est nommé à bon droit jour du Seigneur ou dimanche.
Le dimanche doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Le dimanche ou les autres jours de précepte, les fidèles s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre du jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps. L'institution du dimanche contribue à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs suffisants qui leur permettent de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Chaque chrétien doit éviter d'imposer sans nécessité à autrui ce qui l'empêcherait de garder le jour du Seigneur.